Notre planète Terre, c'est un être vivant qui respire, qui éternue et qui est capable de déployer des forces inouïes. Le globe terrestre, recouvert par une douzaine de plaques qui se déplacent comme un tapis roulant. Et ce sont elles qui sont à l'origine la plupart du temps des tremblements de terre. Le grand défi de la sismologie justement aujourd'hui, c'est de prédire le plus tôt possible leur survenue. Pourquoi la Terre tremble? Quelles sont les zones du monde qui présentent le plus de risques? Comment travaillent les sismologues? Dossier de la tête au carré cet après-midi. Et j'attends vos messages, vos questions qui arrive déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et à la une de la science aujourd'hui, une ville antique qui refait surface grâce aux archéologues.
Oui, à 30 km de Nîmes, la cité d'Ussetia, aujourd'hui Uzès, ressort de terre. 4000 m² de maisons, de voiries et de superbes mosaïques. Philippe Quint, archéologue responsable de l'opération, nous fait la visite du site.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne. Stéphanie Texier réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Thomas Lehet.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et c'est donc la Terre qui tremble qui va nous intéresser dans un instant avec mes invités, les sismologues Pascal Bernard et Rémi Bossu. Bonjour à vous deux. Pascal Bernard, est-ce qu'un jour la Terre pourrait se figer à tout jamais et ne plus jamais secouer notre planète?
Oui, pour que ça s'arrête, il faudrait que ça arrête de chauffer par en dessous. Et ce qui chauffe les roches, qui les fait bouger dans le manteau terrestre, eh bien c'est la radioactivité naturelle des éléments dans les roches, l'uranium par exemple. Et donc, quand ça sera épuisé, il n'y en aura plus quelques milliards d'années, peut-être.
Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous, Rémi Bossu, donc, pour étudier ces tremblements de terre, puisque aujourd'hui, le grand défi, justement, de votre discipline, c'est de pouvoir les prédire le plus tôt possible.
Alors, oui, c'est un défi, c'est un peu le graal de la sismologie. On n'y est pas, on ne sait même pas si on en sera un jour capable. Mm-hmm. Et puis, d'ici là, il vaut mieux apprendre à construire correctement, parce que ce qui tue, ce n'est pas les séismes, mais c'est les bâtiments qui s'effondrent.
Et on va en parler avec vous dans quelques minutes pour ce dossier tremblement de terre, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et la ville d'Uzès dans le Gard qui découvre son passé antique. Ce sont 4000 mètres carrés de rues, de maisons, une production de vin, une mosaïque d'exception que viennent de mettre au jour les archéologues dans la cour de l'ancienne gendarmerie d'Uzès. Philippe Quint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes archéologue spécialiste du monde antique et responsable d'opérations pour l'INRAP sur ce site en particulier. Quelle a été votre réaction quand vous avez découvert que cette cité antique existait bel et bien sous l'actuelle ville d'Uzès?
On a été très étonnés au départ, puisqu'on n'avait aucune donnée sur l'histoire romaine et l'histoire gauloise de la ville d'Uzès. Donc ça a été une vraie surprise de trouver autant de vestiges, autant de structures, et puis surtout dans un état de conservation aussi remarquable.
Quels sont les éléments qui vous permettent de dire avec certitude qu'il y avait une véritable ville?
Parce qu'on a retrouvé sur les 4000 m² qui ont été ouverts, on a retrouvé plusieurs axes de circulation, plusieurs rues, et puis de chaque côté des rues s'organise une véritable urbanisation avec des îlots, des maisons privées, donc dont on a retrouvé les fondations, parfois les élévations, les sols, et puis d'autres îlots dont l'un d'eux qui contient un bâtiment peut-être à caractère public, avec à l'intérieur une très grande mosaïque d'environ 60 m².
Alors ça, c'est la pièce maîtresse de votre fouille, en tout cas la plus impressionnante. Qu'est-ce qu'elle représente, cette mosaïque?
Alors cette mosaïque, elle représente principalement des motifs géométriques assez classiques. Et puis sur ces 60 m², il y a deux motifs principaux, dont l'un porte des représentations de quatre animaux. On y voit un aigle, une biche, un canard et une chouette. Donc une particularité aussi dans le motif. Et puis il y a surtout une inscription qui a été observée, une inscription réalisée en tessel, ce qui est assez rare.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette inscription? Vous nous avez piqué.
Cette inscription, elle mentionne le nom d'un personnage, visiblement un personnage d'origine gauloise, qui se dote à un moment donné d'un prénom romain, Lucius, mais il continue à l'écrire dans sa langue. Donc l'inscription est écrite en grec, et aujourd'hui elle nous pose question, puisqu'on est sur des pistes de réflexion. Est-ce qu'il s'agit du propriétaire, peut-être de l'artisan qui aurait participé à la réalisation du décor? Pour l'instant, aucune certitude encore.
Est-ce que vous aviez auparavant des traces de l'existence de cette ville? On prononce Ussetia ou Ussetia?
Voilà, c'est ça.
Oui, Ussetia.
Et on avait très très peu d'indices au niveau des découvertes, quelques fragments de mosaïques qui avaient été découverts il y a déjà de très longtemps et des découvertes isolées, anciennes et sans contexte archéologique, je dirais. Mmh. Et puis on connaissait le nom d'Uzès puisqu'il était mentionné sur une stèle, une inscription donc qui avait été retrouvée à Nîmes. Mais jamais aucune fouille archéologique d'aussi grande envergure que la nôtre aujourd'hui n'avait été réalisée à Uzès, donc tout restait à faire. En fait.
Quand on trouve une ville comme ça, nouvelle, a priori nouvelle, qu'est-ce qu'on cherche à savoir en premier? Qu'est-ce qu'on veut comprendre dans une ville antique?
Ben, on essaie de comprendre, je dirais, deux choses. On essaie de la saisir à travers le temps et à travers l'espace. À travers le temps, c'est-à-dire essayer de retrouver les premiers occupants. Alors, peut-être qu'on n'a pas forcément les premiers occupants de la ville d'Uzès dans sa totalité, mais en tout cas du secteur que nous, on est en train de fouiller. Visiblement, les premiers occupants arrivent dans le courant du 1er siècle avant notre ère. Et puis, on essaie de voir comment évolue la ville. Les dernières traces d'occupation pour nous remontent là au 7e siècle de notre ère. Et puis, on essaie, bien sûr, à la fouille de la dégager en plan, hein, d'avoir l'organisation d'une ville. C'est ça qui est important aussi pour la comprendre, l'organisation de la trame urbaine, des rues, des îlots, comment étaient lotis les parcelles, est-ce que des secteurs étaient réservés à des bâtiments publics ou plutôt à des habitations privées. Donc voilà, on essaie de la voir à travers le temps et à travers l'espace.
Mais alors, Philippe Quint, elle se trouve à quelle profondeur, cette ville antique exactement?
Alors c'est pas très très profond, les vestiges les plus anciens autour de la mosaïque se situent entre 1,50 m et 2 m sous le sol actuel, et ils sont pratiquement posés sur le rocher naturel d'Uzès, un rocher calcaire.
Mais c'est très peu pour retourner 2000 ans en arrière alors?
C'est très peu parce que il n'y a pas forcément d'habitude les villes généralement se superposent les unes aux autres, oui. Mais il arrive aussi que quand des personnes arrivent sur un nouveau terrain, ils vont détruire ce qu'il y avait, les constructions qui existaient auparavant, et reconstruire par-dessus. Donc la sédimentation n'est pas très importante, et on observe comme ça sur le chantier d'Uzès des constructions du 1er siècle de notre ère qui sont pratiquement au contact d'autres constructions nettement plus neuves, nettement plus nouvelles, de 600 ans qui sont construites 600 ans plus tard. Mais les deux sont pratiquement au contact et superposées l'une à l'autre.
Pas très loin de Uzès, il y a Nîmes qui a aussi un passé antique. Est-ce qu'on peut imaginer une histoire commune de ces deux villes, des interactions dans l'histoire?
Alors évidemment, il y avait probablement des relations entre les deux villes. Nîmes était le chef-lieu et gérait un grand territoire. Peut-être que Uzès, et on le pense depuis quelques temps, notamment par rapport à la mention du nom d'Uzès sur cette fameuse inscription trouvée à Nîmes, pouvait faire partie de ces agglomérations secondaires et donc avoir des échanges, des liens politiques, économiques avec la grande cité qui était Nîmes.
Alors, les fouilles vont continuer encore longtemps dans la cité du Cessia?
On doit terminer la fouille dans le courant du mois d'août, donc c'est un long chantier puisque nous on a commencé dès le mois d'octobre 2016, et donc ça fait partie des grandes fouilles de ces 10 dernières années dans le sud de la France, hein, puisqu'on va pratiquement passer une année entière à Uzès à découvrir la vie romaine.
Donc c'est une course contre la montre aussi pour vous alors?
Un petit peu, c'est la difficulté aussi de ce type d'opération. On sait qu'on a une date de départ, une date de fin, et donc à nous d'organiser le calendrier de la fouille pour faire en sorte que au mois d'août, tout ce qu'on devait voir a été vu, photographié, enregistré, et voilà, c'est la petite difficulté, mais c'est un peu le quotidien de toutes les opérations d'archéologie préventive aujourd'hui.
Ouais, justement, la foule, elle peut visiter le site ou c'est vraiment fermé au public?
Non, c'est ouvert au public puisqu'on organise des journées portes ouvertes ce week-end, le samedi 1er et le dimanche 2 avril, entre 10h et 17h. Et donc on va organiser toute une série de visites guidées pour le grand public, et on leur fera découvrir la mosaïque, les bâtiments de l'Antiquité tardive, hein, du 6e siècle, donc ils pourront voir un petit peu tout, et notamment de la vie aussi quotidienne d'un chantier d'archéologie.
Que va devenir la très grande mosaïque que vous avez découverte après le mois d'août? Est-ce qu'elle va être exposée? Je crois que c'est une pièce assez exceptionnelle pour la France.
Alors c'est une pièce exceptionnelle d'abord par ses dimensions, hein, puisqu'on connaît peu d'exemples de pavements mosaïqués d'aussi grande dimension. Exceptionnelle aussi par la qualité de sa conservation, puisque ce qu'on appelle le tessellatum, c'est-à-dire l'assemblage de ces petites tesselles en pierre est quasi intact. Il en manque, il y a quelques lacunes, mais il est quasi intact. Et puis il est exceptionnel aussi pour sa chronologie, puisqu'on a plutôt la tendance à trouver des pavements de ce style. On en a trouvé à Nîmes, mais plutôt pour des périodes plus tardives, au 1er ou 2e siècle de notre ère. Ici, on est déjà au 1er siècle avant notre ère, et donc c'est par cette particularité, le pavement est exceptionnel. Et ce pavement va être déposé à partir de la semaine prochaine. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il va être enlevé dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite être restauré et exposé dans un lieu d'accueil qui, pour l'instant, n'est pas encore fixé.
Voilà pour les révélations de l'archéologie avec donc cette ville antique d'Ussetia révélée sous la ville d'Uzès. Philippe Quint, merci beaucoup pour vos explications. Et puis Axel, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la pollution de l'air ne s'arrête pas aux frontières. Des études ont déjà montré le lien entre mort prématurée et pollution locale. Mais l'air peut être pollué à distance. La production, la consommation de biens, mais aussi leur transport génèrent de la pollution qui va ensuite se balader dans notre atmosphère. C'est pour évaluer ce phénomène que des chercheurs canadiens, américains et chinois ont joint leurs efforts. Ils estiment que 12% des morts prématurées dues aux particules fines résultent d'une pollution issue d'une autre région du globe. La pollution générée en Chine par la production de biens serait ainsi responsable de la mort de presque 65 000 personnes ailleurs dans le monde. A l'inverse, la consommation de biens en Europe et aux États-Unis serait responsable de la mort de presque 110 000 personnes en Chine. L'homme de Néandertal avait un sens de l'esthétique. C'est un os de corbeau retrouvé en Ukraine sur un ancien site fréquenté par Néandertal qui permet de l'affirmer. L'os présente 8 entailles régulières et réalisées avec un silex. Une étude au microscope révèle qu'il y avait initialement 6 entailles. Les deux autres ont donc été ajoutées après coup pour harmoniser les espaces entre chaque entaille. Cette observation sur la manière dont les entailles ont été réalisées laisse entrevoir la volonté spécifique de créer un motif harmonieux. Et puis faire la sieste est bon pour le système immunitaire, au moins pour les mouches drosophiles. C'est ce que révèle une étude américaine. Les chercheurs ont comparé les capacités immunitaires de pas moins de 72 000 mouches. Et toutes ne sont pas égales. Les chercheurs ont repéré des variants génétiques permettant une meilleure protection aux maladies. Mais pas que. Ils isolent également d'autres facteurs qui rendent aussi plus aptes à affronter les maladies. Et parmi eux, une sensibilité réduite au stress ou à la faim, mais également la régularité des siestes. Les mouches qui se reposent davantage sont mieux préparées à la maladie. La découverte intéresse particulièrement les chercheurs puisque 70% des gènes responsables de la maladie chez l'homme ont un gène correspondant chez les mouches. Allez, la terre qui tremble, c'est le dossier dans un instant.
On sort en trombe, en ombre. On se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards ou en millièmes de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD, Blancos, Bougnoul ou bien Nègre. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts. Nous sommes des cargaisons de femmes voilées, des you-you stridents, des rastas, des casquettes tournées, des voyous prudents, des espoirs accrochés, des paradis assassinés, des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés, de la marmaille bruyante, des petits morveux frisés, engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter. Trouver des boucs émissaires, les égorger pour l'Aïd, mourir dans une clairière sans treillis pour ce pays. L'affiche et couleur sang, Emmanuel Chien vient pas d'Auvergne, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos mûr comme Jean-Pierre Thorne. On s'en fout du grand soir parce que la nuit c'est bien trop morne. On veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure. Aux arts miraculeuses, on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi parce qu'il est partout, même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux. On est sourd aux slogans élimés par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs. On a plus 20 ans mais on n'en aura jamais 60, car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante. On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes. Donc nous on pend Peter Pan, on va redevenir adultes. On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage, et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent. À leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit. On occupe du terrain, être indigné ça va de soi. Angela qui prend le choix pendant que ton papa est bien là. On va ouvrir les portes de Soledad ou Attica. Pharmacodépendant des OGM pour nous doper. J'ai recraché l'assiette, monté le cheval et galoper, braquer un RER, diligence, la pâche de Belleville. Viendra crier vengeance comme Balavoine arrive en ville. Ils veulent nous assigner des places et nous faire saigner. Les amoureux au banc public n'arrêteront jamais de s'aimer. Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir, on ne laissera personne parler au nom de nos espoirs. On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés. On arrivera de l'aube en éruption spontanée.
Gaël Faye, version chanteur, avec à l'instant Irruption.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Voilà un dossier sur la sismologie cet après-midi avec mes invités Pascal Bernard et Rémi Bossu. Pascal Bernard, vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris et vous publiez « Pourquoi la Terre tremble » aux éditions Belin. Et Rémi Bossu, vous êtes responsable du Centre sismologique euro-méditerranéen et votre ouvrage « Où sera le prochain séisme ?» est sorti chez EDP Science, ouvrage écrit avec Jocelyn Guilbert et Bruno Feignier. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions et les messages sur franceinter.fr. Votre métier est donc de travailler sur les tremblements de terre. Mais d'abord, ma première question, est-ce que le hasard a fait que vous avez vécu vous-même un séisme en direct, Pascal Bernard ?
Oui, depuis que je suis sismologue, oui, j'en ai vécu pas mal. Ouais. Surtout qu'on intervient souvent après les grands séismes pour voir ce qui se passe. Et du coup, on est secoué par les répliques qui sont souvent assez grosses.
Ouais. Quel est le séisme qui vous laisse le souvenir peut-être le plus marquant ?
Ah, le plus marquant, c'est celui qui a suivi 3 semaines après le grand séisme du Chili en 2010.
Ouais.
Un séisme de magnitude supérieur à 7, on était assez loin. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que la Terre bougeait pendant 20 secondes de manière assez considérable, mais sans bruit. On était en pleine campagne et c'était vraiment très impressionnant.
Ouais, Rémi Bossu, pour vous alors ?
Beaucoup moins d'expérience là-dessus. Je fais beaucoup moins de terrain après le séisme. Donc c'est beaucoup des petits séismes quand j'étais à Grenoble notamment.
Ouais, c'est un regret pour vous de ne pas vivre...
Un petit peu, effectivement.
Quand même, dans la carrière d'un sismologue, il faut vivre ça au moins une fois, j'imagine. L'actualité sismique, elle est assez calme en ce moment. Hein. Vous confirmez ?
Tout à fait. On a vécu une période, notamment la deuxième partie de l'année 2016, où il y a eu beaucoup de séismes, notamment en Italie, mais pas uniquement. Il y a eu aussi un grand séisme magnitude 7,8 en Nouvelle-Zélande. Mm-hmm. Et depuis quelques semaines, on n'a vraiment pas beaucoup de sismicité à l'échelle mondiale. Quelque chose de très calme ces dernières semaines.
Ouais. Pascal Bernard, ce sont des périodes calmes qui sont normales, au fond
Normalement, on n'a pas fait la statistique, mais c'est des fluctuations qui sont assez normales, oui. Il n'y a pas lieu de s'affoler.
Bon. Et elles ne précèdent pas, justement, des événements plus important, ça ne veut absolument rien dire.
Hein. On n'en tire pas de conclusion. Absolument aucune conclusion à en tirer.
L'imprévisibilité, de toute façon, c'est ce qui aussi caractérise cette discipline qu'est la sismologie, hein, Pascal Bernard. On ne peut rien prévoir quasiment. Hein.
Prévoir de manière fiable, non, mais on a des indices quand même en termes de probabilité que quelque chose peut se passer avec une chance sur 10 peut-être dans le prochain mois.
Ouais. Séisme et tsunami d'ailleurs. Hein. Ça, c'est
on parle un peu de tsunami, c'est difficile à éviter avec la mémoire du séisme du Japon et celui de Sumatra.
C'est ça. Et pourra-t-on un jour les prédire, c'est la question que vous posez dans cet ouvrage, puisque cette façon de travailler, est-ce qu'on peut dire qu'elle reste rudimentaire ou qu'est-ce qui est difficile au fond dans cette prédiction des séismes ?
Ce qui est difficile, c'est que la croûte est très instable, donc une petite pichenette quelque part peut déclencher des forces qui étaient déjà accumulées à côté, qui étaient prêtes à partir en fait. Donc on ne sait pas l'état de la planète en ce moment, on ne sait pas l'état d'une zone de faille. Il y a des failles qui sont bloquées, d'autres qui sont débloquées. Un petit quelque chose peut dégénérer en quelque chose de très grand, très vite.
Rémi Bossu, on vient d'entendre votre téléphone qui vient de vibrer. Est-ce que c'est l'application, justement
Faut que je vérifie, mais effectivement...
Expliquez-nous un petit peu, justement, l'objet de cette application que vous avez mis en place.
L'application qu'on a mis en place s'appelle Lastquake. Elle est disponible aussi en français. Et en fait, le principe, c'est d'essayer de donner de l'information sur les séismes ressentis. Mm-hmm. Donc, ils ne représentent que la minorité des séismes qu'on enregistre, hein, typiquement quelques pourcents de ceux qu'on enregistre.
Ouais.
Et l'idée, pour les identifier rapidement, c'est pas de se tourner vers la sismologie, mais de se tourner vers la réaction des gens. Il y a 20 ans, 25 ans, quand j'étais étudiant, les gens téléphonaient au labo. Aujourd'hui, donc on savait que quelque chose s'était produit quand les téléphones sonnaient. Oui. Aujourd'hui, les gens se tournent vers Internet. Donc si vous avez un séisme, vous pouvez regarder sur Twitter, vous avez un grand nombre de tweets qui contient le mot séisme. Et notamment sur notre site Internet ou sur notre application, les témoins lancent l'application ou viennent sur le site à la recherche d'informations dans les dizaines de secondes qui suivent.
Alors prenez votre application, on va le faire en direct, puisqu'elle vient de vibrer justement. Alors,
je ne sais pas si c'est... c'était pas l'application, c'est seulement les mails. Mais le dernier qu'on a eu, c'était donc il y a quelques heures en Californie. Ouais. Donc on l'a détecté via Twitter, c'est-à-dire simplement un nombre important de tweets qui contient le mot séisme, earthquake.
Ouais. Et dans
la région de Californie, donc on sait. Et le grand intérêt de ces applications, c'est de ces types d'approches, c'est qu'on est plus rapide que la sismologie dans la grande majorité des cas.
Ouais.
On détecte les séismes typiquement en une minute maintenant, sans aucune information sismologique.
Quel est le nom de l'application pour
Lastquake,
voilà.
En un mot. L-A-S-T-Q-U-A-K-E.
Et quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, évidemment, voilà, l'objet est justement. Ça, c'est un nouvel outil pour travailler pour vous, Pascal Bernard?
Alors, c'est
aussi
un outil absolument fantastique, mais il faut aussi comprendre exactement ce qu'il y a derrière, c'est interpréter la réaction des gens. Il faut non seulement des physiciens, des sismologues pour interpréter ça, mais aussi des psychologues, des sociologues pour comprendre le comportement collectif ou non collectif de ces gens qui appellent, qui se connectent et tout ça.
Alors, il y a des questions d'auditeurs, elles sont nombreuses. Johan qui demande par exemple, malgré l'utilisation d'outils modernes dans votre technique, est-ce que l'échelle de Richter est toujours d'actualité?
Alors, on parle toujours d'échelle de Richter, c'est surtout l'échelle de magnitude, autrement dit, ce qui est important, c'est qu'on essaie de représenter l'énergie du séisme, qui est liée à sa dimension, au potentiel destructeur de cette faille. Mais cette échelle de Richter, maintenant, elle est remplacée par des mesures plus fines, plus physiques. Le défaut de l'échelle de Richter, c'est que les mesures qui étaient faites permettaient pas d'aller très très haut en magnitude. Maintenant qu'on a des magnitudes 8,5, 9, 9,5, il fallait une échelle qui continue à grandir avec la mesure
physique.
Elle
était limitée à combien, à 10 a priori?
Non, elle n'était pas limitée, mais en fait, la mesure elle-même limitait la capacité de voir que c'était un très gros séisme, plutôt qu'un moyennement gros. Maintenant, on sait bien faire la distinction entre un 8, 8,5, 9, jusqu'à 9,5 sans problème.
Ouais, Rémi Bossu.
En fait, la magnitude de Richter est une échelle de magnitude parmi d'autres et on en utilise des dizaines aujourd'hui qui vont avoir un domaine d'application plus ou moins spécifique et plus ou moins approprié pour le séisme qu'on va étudier.
Est-ce que le cinéma s'est beaucoup inspiré des séismes, Pascal Bernard?
Oui, il y a eu
film catastrophe.
Oui, film catastrophe, bien sûr, avec évidemment des exagérations absolument terrifiantes. Mais disons, ça fait penser.
C'est pas facile de filmer des tremblements de terre.
Qui s'ouvre, des machins.
C'est ça. En tout cas, voici un extrait de San Andreas. Voilà. C'est un des films qui a été sorti sur les écrans en 2015.
Le tremblement de terre de Sendai au Japon est l'un des 5 plus puissants enregistrés depuis l'an 1900. Il a été suffisamment fort pour déplacer l'île principale du Japon de 2,5 mètres. Et ce n'est qu'une secousse. Il y en a en moyenne 1,3 million qui sont enregistrés autour du globe chaque année. La plus violente enregistrée ici, dans le nord de l'Amérique, Anchorage, Alaska, 1964, 9,1. La Terre a tremblé pendant 5 longues minutes. L'énergie relâchée équivaut à 10 millions de bombes atomiques aussi puissantes que celles d'Hiroshima. Et ce n'est pas le plus gros séisme jamais enregistré. Non, le plus gros s'est produit 4 ans plus tôt au large de Valdivia, dans le sud du Chili. Un énorme 9,5 sur l'échelle de Richter, juste là. Boom. La secousse a duré 11 minutes et a généré un tsunami de 25 mètres qui a submergé l'île de Hilo à Hawaï, 13 000 km plus loin. 13 000 km plus loin.
Voilà, extrait du film San Andreas, 9,5 sur l'échelle de Richter au Chili en 2010. Pascal Bernard, jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment le phénomène le plus important jamais enregistré?
Alors, le film de 2010, c'était plus petit, heureusement, c'était 8,7. C'est 1960, hein, le grand du Chili, 1960. C'est le plus grand enregistré pour l'instant, oui, mais rien n'empêche que des failles plus grandes encore se connectent en une seule rupture dynamique et produisent à magnitude 9,7, 10 ouais. peut-être, avec 3000 km de plaques qui cassent d'un coup.
Ouais. 11 minutes de tremblement, ça doit être très très long quand même, hein.
Oui, bah Sumatra, c'était 7-8 minutes hein, de mémoire.
8 minutes de rupture.
De rupture, hein, donc c'est sur 1700 km de long.
Quelle est la nuance quand vous parlez de rupture?
C'est-à-dire, un séisme, c'est une rupture qui se propage le long de deux compartiments rocheux sur une faille. Mmh. Et donc, la rupture, la longueur de la rupture, est la durée de la rupture sur cette faille dure 8 minutes. Mais en un point donné, la secousse elle-même va durer plus longtemps, peut durer plus longtemps.
Ouais. Pascal Bernard, dans votre livre, vous parlez des séismes fossiles. C'est-à-dire qu'on a des traces dans les entrailles de la Terre, par exemple.
C'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que les grandes failles, en cassant vers la surface, secouent tellement le sol ou le rompent qu'elles laissent des décalages qui sont ensuite remplis par les sédiments et dont on peut retrouver les traces en faisant les tranchées.
Ouais. C'est utile, votre discipline, ces archives.
C'est très important parce que l'histoire humaine est très courte, la mémoire humaine est très courte, quelques milliers d'années. Les archives ne donnent pas forcément les grands séismes qui ont eu lieu dans une région donnée il y a 5 ou 10 000 ans, évidemment. Et donc, il faut chercher les archives géologiques. Mm-hmm. Et celles-là sont extrêmement précieuses pour dire, voilà, en France, est-ce qu'on attend magnitude 7 au maximum ou peut-il y avoir des 7,5, par exemple.
Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce qu'on peut répondre
à
cette question.
On manque un peu de sous pour faire les travaux correctement.
C'est une revendication que vous en profitez pour faire. Alors Thierry nous demande, est-ce que la Lune et les autres planètes du système jouent un rôle dans la tectonique des plaques, de par l'alignement justement des planètes ou pas?
Pas dans la tectonique des plaques. Il y a énormément d'études faites sur est-ce que ça peut déclencher des séismes, est-ce que ça peut accélérer des déclenchements. C'est vraiment pas des choses qui sont primordiales en tout cas. Non, c'est vraiment du second ordre, du troisième ordre, du quatrième ordre.
On le voit, mais c'est marginal, effectivement.
C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur votre application en ce moment?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'on annonce l'application, il y a beaucoup de gens qui l'ont lancée. Et donc, comme on détecte quand un grand nombre de personnes lancent l'application en même temps du même endroit,
on pourrait croire qu'il y a un séisme.
C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Hein, c'est-à-dire quand on a une émission télé qui parle de notre centre, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit. Alors, c'est assez vite qu'on n'a rien, puisqu'après, on confirme. Parce qu'on voit sur les sismomètres.
Et puis ça ne vient pas que du même endroit.
On va voir l'audience de l'émission. Je pourrais vous dire jusqu'où vous êtes écouté.
Eh bien, on va voir ça avec vous. On en parlera dans quelques minutes. Suite de notre dossier avec vous pour parler de la sismicité et de cette terre qui tremble. Vos messages, franceinter.fr.
Brooding, I banish you.
So Thing est la voix de Laura Marling.
La tête au carré sur France Inter.
Sous le soleil de plomb, les sauveteurs fouillent les décombres. Soudain, une nouvelle secousse. Plus violente que les autres, elle détruit quelques maisons et soulève la poussière. Sarah, qui travaillait dans les ruines avec son chien, interrompt ses recherches.
Ils ont fait sortir nous et notre chien. Chaque fois qu'il y a un tremblement, ça peut s'écrouler.
Mais la jeune femme reprend rapidement son minutieux travail, car la course contre la montre se poursuit. Chaque heure compte pour retrouver des survivants.
Il y a probablement encore des personnes au-dessous des crampes. Ce matin, ils ont trouvé deux enfants vivants, donc nous espérons.
Les bénévoles arrivent de toute l'Italie pour aider les sauveteurs. Ricardo, lui, vient d'une région voisine. Il fait partie d'un groupe de 10 personnes.
On vient de la province de L'Aquila, qui fut la place du tremblement de terre en 2009. Et on est ici comme volontaire pour faire les choses que les autres gens ont faites pour nous à L'Aquila.
Voilà, reportage de Sébastien Baird le 26 août sur France Inter avec, on le disait, une actualité en ce moment qui est plutôt calme du côté de la sismicité. En revanche, pour l'Italie ces derniers mois, Pascal Bernard, beaucoup d'événements sismiques. Hein.
Beaucoup d'événements sismiques un peu en cascade, c'est-à-dire que un grand séisme apparaît et puis voilà quelques mois plus tard, un deuxième, simplement parce que c'est la faille voisine qui a été bousculée par la première, fragilisée, affaiblie, qui a résisté encore un peu, puis finalement qui casse. Et puis dans la foulée, des répliques. Et puis
beaucoup
encore
de répliques,
plus tard,
hein.
En janvier, de nouveau des séismes. Mais tout ça a activé une zone qui fait presque 60-70 km de long.
Ça correspond à quoi d'ailleurs cette zone italienne?
Ce sont les Apennins, c'est une chaîne de montagnes qui s'est soulevée, qui est maintenant en train de s'étaler. Et pour s'étaler, ben, elle tire, elle s'écarte, ça fait fonctionner les failles.
Rémi Bossu, vous parlez justement de la tectonique des plaques et ce système de tapis roulant. Hein, et tout cela avance très lentement au fond. Hein.
Typiquement, en Europe, on est vraiment dans des mouvements qui sont faibles, de l'ordre de quelques millimètres par an, pas plus. Donc,
vous parlez de finalement l'avancée d'un ongle, hein, pour comparer à peu près.
Exactement, la vitesse de croissance d'un ongle. Ouais. Donc c'est à peu près ce que ça donne. Donc si vous pouvez passer votre temps à le regarder, vous ne verrez pas grand-chose. Si vous attendez quelques mois, il se passe des choses.
Ouais. Et pourtant, un centimètre au niveau d'une plaque tectonique, c'est énorme.
Si vous regardez par exemple l'Aquila avait été détruite au début du XVIIIe siècle, donc il y a 300 ans. Donc si vous accumulez de la déformation de quelques millimètres par an pendant 300 ans, vous avez une déformation qui est importante.
Oui. Pascal Bernard.
Oui, tout à fait. Les Apennins s'étirent effectivement, mais c'est proche à certains endroits du centimètre par an. Et du coup, en 300 ans, vous avez 3 mètres à rattraper d'ici de là. Partie asismique et partie cassante, quoi, violente.
Un exemple comme la faille de San Andreas, par exemple, là on a affaire pareil à la même vitesse.
C'est plus rapide quand même.
Et dans les Tonga, on monte jusqu'à 9 cm par an.
Oui, ça va entre 1 et 10 cm par an, la moyenne des plaques.
Ouais. Gérard nous dit, ce matin même, j'ai senti la terre trembler du côté de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie. Eh bien, vous confirmez que c'est exact.
Tout à fait. Il y avait eu un petit séisme de 2,5, de magnitude 2,5, donc ressenti extrêmement localement. Donc là, on n'a pas vu, ils ne sont probablement pas nombreux à l'avoir ressenti.
C'est ça, votre application le confirme, hein. Vous avez eu
c'est les sismomètres qui confirment l'existence de ce séisme, tout à fait.
Il y avait la chambre, je crois, qui était
indiquée, qui chambre, se
trouve à 12 km de Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a d'autres mouvements sismiques en France, là, récemment?
Alors en France, non, c'est le dernier qu'on a vu dans la journée.
Bien. Ludovic nous dit ceci, des pendules d'antan au sismographe par interférométrie laser, les instruments pour détecter les tremblements de terre ont beaucoup évolué, mais j'ai entendu parler de réactions et de comportements particuliers chez certains animaux. Est-il exact que l'on puisse justement étudier ces comportements? Vous en parlez dans votre ouvrage, Pascal Bernard. Hein.
Alors, on les étudie, on publie assez peu dessous, en tout cas, c'est il y a peu d'informations qui passent chez les sismologues parce que c'est très difficile à interpréter. On comprend bien que les animaux soient sensibles aux micro-vibrations lorsqu'ils vivent dans les terres, dans la campagne tranquille, et donc qu'ils soient moins sollicités par des vibrations permanentes de nos voitures, de nos engins. Donc on comprend leur sensibilité, donc leur activité, d'autant plus que les animaux ayant souvent une courte durée de vie, pour des humains qui sont un peu secoués de temps en temps, finalement un crapaud qui va ressentir pour la première fois des secousses dans sa mare va s'affoler.
Ouais, pourquoi vous parlez des crapauds alors en particulier?
Parce qu'avant l'Aquila, il y a eu une migration de crapauds très étonnante à 70 km de l'Aquila, dans une zone très surveillée par des éthologues qui analysaient un petit peu le comportement amoureux des crapauds, qui ont été très surpris qu'au moment où ils devaient faire autre chose, ils s'enfuyaient de la mare.
Ouais, donc pendant cette période très critique de la reproduction, ils ont choisi de partir, et ce serait dû à la sismicité
Alors ça, c'est il y a plusieurs causes causes possibles. Moi, la cause la plus simple que j'y vois, mais on n'a pas aucune preuve, c'est qu'il y a effectivement quelques semaines avant plusieurs secousses, notamment une semaine avant des fortes secousses qui ont pu être ressenties par ces crapauds de cette fameuse mare.
Jean-Michel nous dit, lors du tremblement de terre d'Istanbul en 99, il avait été prédit un nouveau tremblement de terre avant 30 ans. Voici maintenant 18 ans de cela. Est-ce que les prévisions sont exactes?
Alors, c'est jamais une prédiction. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, toute la faille, donc, il y a, qu'on appelle la faille nord-anatolienne, qui court le long de la mer Noire, puis jusqu'à la mer de Marmara au sud d'Istanbul, on sait que cette faille a cassé quasiment sur toute sa longueur, sauf au sud d'Istanbul. Donc, on a, dans cette section, de la déformation qui s'accumule depuis des centaines d'années. Donc, on va avoir un séisme. Alors, les calculs sont toujours, il peut se produire aussi bien aujourd'hui que dans 30 ans, ça, on sait pas exactement, mais effectivement, Istanbul sera vraisemblablement frappé par un séisme important dans les décennies qui arrivent.
Alain nous dit, un réchauffement de quelques degrés peut-il avoir un impact sur la dilatation de la croûte terrestre et donc sur les tensions pouvant favoriser certains séismes, Pascal Bernard?
Je ne pense pas, parce que la température a beaucoup de mal à pénétrer l'intérieur des roches. Hein, et c'est pour ça qu'il y a des cavavins à faible profondeur, c'est que c'est une température très stable. Donc le changement climatique va mettre des millions d'années à atteindre quelques centaines de mètres de profondeur. Donc,
Alors quels sont les signes avant-coureurs justement d'un séisme? Qu'est-ce qu'on observe pour tenter au mieux de les prédire?
Si on avait des signes avant-coureurs, on saurait faire une prédiction. Donc pour l'instant, on n'a pas de signes avant-coureurs qui soient systématiques. Absolument aucun.
C'est ça.
Mais je pense que là, Bernard peut en parler plus que moi sur notamment ces études qu'il fait en Grèce. Il y a des études poussées qui sont faites pour identifier s'ils existent. On n'a pas encore prouvé qu'ils existaient de manière systématique.
Alors, Pascal Bernard, justement, au niveau de la prédiction.
On prend maintenant, c'était des questions qui se posaient aux scientifiques avant les années 2000. Maintenant, on pense un peu différemment, c'est-à-dire qu'on observe des fluctuations de la microsismicité, par exemple. On observe des mouvements lents de la planète, de la croûte terrestre, des déformations qui durent un mois, puis qui s'arrêtent. On entend les failles un petit peu gronder, puis ça s'arrête. Il y a plein de petites fluctuations un peu bizarroïdes que les gens avant les années 2000 interprétés comme précurseurs éventuellement.
On peut les entendre à l'oreille
Non, on les entend pas, mais on les mesure très bien, c'est à quelques hertz, donc c'est trop basse fréquence pour nous. Et ces choses-là, maintenant, on les étudie de manière beaucoup plus systématique parce qu'on a des réseaux extrêmement denses de surveillance, du GPS en quantité, des milliers de stations au Japon, des sismomètres aussi en quantité, et tous ces instruments nous permettent de voir beaucoup plus finement tous ces micro-machins, ces micro-événements.
Ces micro-machins,
c'est des choses qui durent entre une heure et typiquement plusieurs mois. Et ce qu'on essaie de voir, c'est la physique de ces processus, et voir dans quelle mesure elle indique qu'une faille est en train de se préparer à lâcher. Alors en fait, elle peut se préparer à lâcher, puis finalement se dire, je ne vais pas casser tout de suite, je vais casser dans 100 ans. Donc on essaie de comprendre cette mécanique pour en savoir plus et donner une probabilité plus fiable de ce qui pourrait se passer dans le mois qui vient, en observant ces phénomènes.
Vous parliez de Japon, Juliette et Georges nous disent, nous partons au Japon en novembre, quel est le risque de tremblement de terre? Rémi Bossuet, est-ce que déjà vous pouvez nous faire la carte de la sismicité japonaise en novembre?
En moyenne, par exemple, si vous allez au Japon, il y a de fortes chances que vous ressentez un séisme, si vous y restez quelques semaines. De mémoire, je crois qu'on dit à Tokyo, les gens ressentent 3 séismes par semaine. De mémoire, je crois que c'est à peu près ça, donc c'est absolument fréquent. L'avantage quand même du Japon, c'est certainement un des pays les mieux préparés pour les séismes. Les bâtiments sont généralement très bien construits, donc on n'est pas c'est pas certainement le pays le plus à risque. L'aléa est très fort, c'est-à-dire vous avez beaucoup de sismicité, mais la qualité des constructions fait que le risque reste limité par rapport en tout cas à l'aléa.
Vous avez beaucoup de messages japonais sur votre application justement ou
pas? Non, assez peu, c'est parce qu'en fait les Japonais ont un système qu'on appelle le système d'alerte précoce au séisme. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent les stations les plus proches de l'événement sismique, le localisent en 2, 3, 4 secondes et arrivent à prévenir les gens qui sont à quelques dizaines ou centaines de kilomètres de l'événement de l'arrivée de la secousse. C'est-à-dire que le message est envoyé après le séisme lui-même, mais en fait, le message envoyé sur votre téléphone va plus vite que la secousse sismique. Donc, à partir de là, les gens n'ont pas vraiment d'intérêt de venir nous voir.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre discussion, juste après « Man gave names to all the animals » et c'est Bob Dylan. Saw an animal that liked to growl.
furry paws and he liked to howl. Great big furry back and furry hat. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. Next animal that he did meet had a wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Salut Chris, je suis présentement avec le docteur Laurence Hayes, directeur général des études sismiques de Caltech. Lui et son partenaire de recherche, le docteur Kim Park, ont découvert un modèle pouvant prédire les séismes. Ils savaient que LA allait être secouée, mais on ne les a pas écoutés. Il est temps maintenant de le faire. Allez-y, docteur.
Okay. En termes sismologiques, ce qui se passe présentement est ce qu'on appelle un essaim sismique. C'est-à-dire que la plaque tectonique de la Californie s'est déplacée.
D'ailleurs, il semblerait que la secousse qu'on a ressentie à Los Angeles a causé des dommages jusqu'à San Francisco.
Oui, mais le tremblement qu'ils ont ressenti n'était qu'un déplacement le long de la ligne de faille dans la vallée centrale. Leur section de la faille n'a pas vraiment bougé encore. En fait, le plus important, c'est que les gens comprennent qu'il y aura d'autres secousses. Et cette fois, je ne parle pas de simples répliques. San Francisco tremblera de nouveau, et cette fois les secousses seront terribles. Nos modèles prédisent une amplitude de 9,5 ou même pire. Ces secousses sont si puissantes qu'on ne les sentira pas seulement ici en Californie, mais même jusque sur la côte est. Je m'adresse le plus sérieusement du monde à la population de San Francisco. Vous devez vous enfuir immédiatement. Et si vous n'avez nulle part où aller, vous devez à tout prix trouver un abri et restez-y. Parce que bientôt, votre vie en dépendra.
Ouh, ça fait peur. Le film San Andreas avec mes invités Pascal Bernard et Rémi Bossu, sismologue, avec deux ouvrages, Pourquoi la Terre tremble chez Belin pour Pascal Bernard et où sera le prochain séisme pour vous, Rémi Bossu, chez EDP Science. La faille de San Andreas, Pascal Bernard, c'est vraiment un objet de recherche aussi pour votre profession?
Oui, c'est un objet de recherche comme toutes les grandes failles. Il y en a une aussi intéressante en Turquie, la faille Nord-Anatolienne dont on vient de parler. Mm-hmm. Il y en a aussi, bien sûr, au Japon, il y en a en Chine. Ces grandes failles, en fait, sont très étudiées parce qu'elles génèrent des très grands tremblements de terre qui sont faciles à étudier dans leur passé, parce qu'elles laissent des traces, et aussi elles sont très actives, donc elles sont très surveillées.
Alors justement, autour de San Andreas, vous parlez de sismomètres qu'on peut installer à très grande profondeur.
Hein. Oui, des sismomètres qui ont été installés il y a quelques années à près de 3 km de profondeur, dans un forage qui vient quasiment gratter la faille. En fait, ça passe à travers, mais les sismomètres sont juste accrochés juste à côté de la faille pour en gros surveiller cette zone de faille qui est un peu particulière parce parce que c'est à la limite entre une partie bloquée de la faille qui fait des séismes de magnitude 6 assez régulièrement tous les 20-30 ans, et puis une zone qui glisse tranquillement un peu, voilà, qui elle fait jouer les packs tranquillement. Et sur cette zone un peu mixte, eh bien il y a des aspérités qui accrochent et qui cassent de manière assez régulière, et les sismologues voudraient savoir qu'est-ce que c'est que ces aspérités qui cassent, et est-ce qu'elles indiquent éventuellement la venue du futur magnitude 6.
Donc on n'est pas très sûr quand même.
Donc voilà, c'est en train d'être étudié.
Ouais. Et cette magnitude dont vous parlez, c'est déjà suffisamment important pour provoquer les dégâts anticipés déjà dans ce film ou pas?
Alors non, ça c'est des magnitudes 6, ça fait peu de dégâts, sauf si c'est vraiment très mal construit autour. Là il s'agit de magnitudes 6 qui peuvent éventuellement déclencher de magnitude 7, 7,5 voire
d'accord.
8. En fait, le séisme de San Andreas de ce film, c'est un séisme qui démarre, je ne sais pas bien si ça démarre sur San Andreas, mais ça, c'est toute le contact nord-ouest de l'Amérique qui joue à la fois en subduction et en décrochement. Donc, c'est des milliers de kilomètres de failles qui font un tsunami géant.
Rémi Bossu, il y a une photo dans votre ouvrage, une vue aérienne de la faille de San Andreas en Californie. C'est impressionnant. C'est une véritable cicatrice dans le paysage.
C'est exactement le mot. C'est vraiment une cicatrice dans le paysage. On voit vraiment une limite qui est clairement visible à partir du ciel. Alors juste un mot sur la magnitude, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. La magnitude, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un magnitude 7 n'a rien à voir avec un magnitude 6, parce qu'à chaque fois qu'on augmente d'un en magnitude, on multiplie par 32 l'énergie.
Ouais.
Donc si vous avez un magnitude 7, c'est 32 fois un séisme de magnitude 7,
ouais.
Et 32 fois magnitude 6,
colossal.
Et 1000 fois pour un magnitude 8.
C'est colossal.
Donc c'est vraiment pas du tout linéaire.
Ouais. Et évidemment, plus la zone est habitée, et plus le danger et le nombre de morts sera important.
On peut aussi le voir autrement. Hein, magnitude 4, c'est une faille qui fait un kilomètre de dimension et qui glisse de quelques centimètres. À magnitude 9, c'est une faille qui fait 1000 kilomètres de long et qui glisse de 10-20 mètres.
Ouais. Pierre demande pourquoi les normes antisismiques ne sont pas obligatoires pour la construction en neuf.
Alors elles le sont justement pour le neuf, elles ne le sont pas pour le bâti existant. Mais tout ce qui est neuf dans les zones d'aléas en France où il y a des normes, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il n'y a pas besoin de normes, il y a des prescriptions constructives notamment.
Ouais. Quelles sont les zones en France a priori?
Il y a les Pyrénées, les Alpes, le Fossé Rhénan et puis un peu le Massif Armoricain et l'Auvergne.
Didier demande comment est-ce qu'on calcule la vitesse.
Et bien sûr les Antilles, pardon, n'oublions pas les Antilles
absolument.
qui sont vraiment
Martinique et Guadeloupe
qui sont les deux départements qui ont l'aléa sismique bien
le plus important.
Hein.
On voyait une carte justement dans votre ouvrage, effectivement le marron concerne
tout
uniquement les Antilles. Hein. Comment calcule-t-on la vitesse de propagation de la sismicité, demande Didier, Pascal Bernard.
La propagation des ondes plutôt que la sismicité, parce que effectivement les séismes se déplacent au cours d'une crise, il peut y avoir migration des séismes qui vont vers le nord ou vers l'est et qui sont à surveiller parce que il serait indicatif qu'une faille peut être atteinte par cette déstabilisation et pourrait casser. Donc, quand on regarde des répliques, on essaie de voir cette vitesse de propagation de la sismicité, s'il y en a une. Mais ça, c'est de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres par semaine, donc ça va pas très vite. Par contre, les ondes, la vibration qui provient de la rupture d'une faille, ça va à plusieurs kilomètres par seconde. Les plus rapides dans la croûte terrestre, c'est 6 kilomètres par seconde.
Ah oui, donc c'est quand même...
Donc ça traverse Paris en 2 secondes.
Oui, c'est très important. Les séismes n'étaient-ils plus aperçus dans le passé comme la colère divine, demande Paul. Alors,
oui, bien sûr, avant que des philosophes d'abord et puis ensuite des savants et des scientifiques s'y collent, les dieux étaient contributeurs. C'était Poséidon chez les Grecs, c'était Héphaïstos aussi, dieu des enfers. Chacun avait son petit rôle dans les tremblements de terre, bien sûr. Oui.
Ouais. On peut imaginer ce qu'a ressenti Homo sapiens au tout début lorsqu'il a vécu un tremblement de terre.
Bah, ça devait être effrayant, mais en même temps.
Les dégâts devaient pas être très importants.
Ben non, parce qu'il y avait des huttes en branches, il n'y a pas grand chose, ou dans une caverne, bon.
Marion nous dit ceci, c'est un témoignage. J'étais l'année dernière au Japon et plus particulièrement à Minami-Azo, dans le Kyushu, près de Kumamoto, pendant le grand tremblement de terre d'avril 2016. Je ne vous parlerai pas du traumatisme, ni des sensations effrayantes ressenties, mais des dégâts subis par les habitations. Région montagneuse, les sols se sont littéralement dérobés, ramollis, provoquant de très nombreux glissements de terrain. Comment prévenir ce genre de phénomène et comment renforcer les habitations qui sont potentiellement dans ces zones à risque? Rémi Bossu.
Là, effectivement, donc, alors, une chose intéressante sur le sujet de Kumamoto, c'est qu'il y a eu deux séismes en fait. Il y a eu un premier séisme magnitude 6,2 qui a entraîné l'évacuation de plus de 40 000 personnes. Et fort heureusement, parce qu'il y a eu le séisme majeur a suivi quelques semaines après et il a détruit plus de 1000 habitations. Donc s'il n'y avait pas eu le premier événement, on aurait certainement eu un nombre de victimes beaucoup plus important. Alors un des phénomènes qui est mentionné, c'est la liquéfaction des sols, c'est-à-dire quand les sols sont gorgés d'eau. C'est un peu comme ce que vous pouvez avoir sur la plage. Quand vous tapotez sur la plage sur du sol rempli d'eau, vous voyez un peu que ça commence à bouger et puis que ça devient un peu liquide. Et on peut avoir ce phénomène dans des certains types de sols qui sont gorgés d'eau. Et donc là, c'est très compliqué parce que les bâtiments, en fait, les fondations ne tiennent plus au terrain. Et donc les bâtiments peuvent complètement se coucher comme s'ils étaient plus du tout ancrés dans le sol.
Pascal Bernard.
Oui, les bâtiments coulent, les grains de sable se décrochent les uns des autres et le bâtiment coule ou se renverse. Et donc la solution, c'est soit de ne pas construire à ces endroits-là, c'est le plus sage, soit de construire sur pieux et de s'ancrer sur le rocher profond qui peut être à 10 mètres ou 20 mètres plus bas.
Quelles sont les régions du monde là, que vous allez visiter dans les prochains mois, Pascal Bernard ?
La prochaine, je pars en Grèce.
En Grèce, pourquoi là-bas en particulier ?
Alors, en Grèce, on a un chantier d'observation dans une zone extrêmement sismique que l'on surveille depuis plus de 20 ans. Et qui nous apprend beaucoup de choses justement sur ces petits essaims sismiques et ces petites crises sismiques qui sont liées à la circulation des eaux souterraines et qui chargent progressivement les grandes failles qui de temps en temps font des grands séismes.
Rémi Bossu, Thomas demande le nom à nouveau de l'application dont vous parliez tout à l'heure. On va
Last Quake, donc LASTQUAKE.
Bon, vous avez de nouveaux messages
ou pas ? Non, rien. Donc c'est toujours calme.
La terre est calme et tant mieux. On ne va pas s'en plaindre évidemment. Et donc application qui peut servir évidemment pour toutes les personnes qui nous écoutent au bout du monde. Vous avez eu d'ailleurs des messages lointains, vous nous disiez tout à l'heure.
On couvre effectivement l'ensemble du monde et c'est ce qui est vraiment pour moi toujours étonnant, c'est-à-dire que même des séismes en Afghanistan, on collecte des témoignages, collecte des témoignages extrêmement rapidement. En 10 minutes, on peut avoir 400 témoignages d'Afghanistan, de zones où on pourrait penser que les gens n'utilisent pas les technologies. Et en fait, les gens utilisent les smartphones et les gens recherchent l'information dès qu'il se passe quelque chose.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. On mettra le site de cette application sur le Facebook et le site de la Tête au Carré, où sera le prochain séisme. C'est aux éditions EDP Science, Rémi Bossu. Et puis Pascal Bernard, donc de votre côté, vous signez Pourquoi la Terre tremble, séisme et tsunami aux éditions Belin. Et vous avez même réalisé vous-même certains dessins dans l'ouvrage, la plupart des dessins. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour docteur Kipik.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, Dominique ?
Ah, je vais vous parler de l'adjectif significatif, qui est souvent employé pour qualifier les résultats des études sur les médicaments. On parle de résultats significatifs, très significatifs, ou parfois non significatifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ?
Bon, bah, c'est une bonne question en effet. Et alors ?
Eh bien, cette significativité, c'est dur, est purement statistique. En fait, elle traduit la probabilité pour que la supériorité d'un médicament observé dans une étude lui soit réellement imputable. Parce que le problème des études sur le vivant, c'est sa diversité. On est tous différents, même les jumeaux. Et en plus, les données comme notre tension artérielle, notre taux de cholestérol, notre poids, ça peut varier de façon importante d'un jour, voire d'une heure à l'autre.
Ouais.
Et donc, quand on teste par exemple un nouveau médicament pour traiter l'hypertension artérielle, bah, si on constate qu'il fait baisser la tension par rapport à un autre médicament, il faut connaître le risque pour que cette baisse qu'on observe soit due à des fluctuations banales et naturelles de la pression artérielle. Parce que si c'était le cas, on risquerait de conclure à tort à la supériorité du nouveau médicament. Eh bien, ce risque d'erreur, il peut se calculer. Et il est exprimé en pourcentage. Alors, il y a une règle ancienne et arbitraire qui fixe un seuil de 5% pour que le risque d'erreur soit acceptable. Ce seuil, ça signifie qu'une différence d'effet observée entre deux médicaments est qualifiée de statistiquement significative s'il existe moins de 5% de chances pour qu'elle soit due au seul hasard des fluctuations biologiques. En pratique, un résultat d'étude comparative est donc associé à ce risque d'erreur, symbolisé par la lettre P minuscule, et plus ce petit p est bas, et bien plus le résultat est statistiquement significatif. Mais si je vous parle de ce petit p, c'est qu'il va disparaître des publications.
Ah ben, dommage, on vient juste de faire connaissance avec lui, ça va vite.
Oui, mais ce seuil de 5%, c'est vraiment trop réducteur. Et la nouvelle expression des résultats va se faire désormais sous forme d'un intervalle de confiance, comme pour les sondages qui relèvent du même principe. Quand vous avez un institut de sondage qui vous dit que le candidat Schmurtz recueille 25% d'intention de vote, il précise souvent l'intervalle de confiance est de 23 à 27%. Ça signifie qu'à partir des résultats de son panel de sondés, l'Institut va calculer la réalité des intentions de vote dans la population totale à 95% de chances d'être compris entre 23 et 27%. Alors, les 25% annoncés ne constituent qu'une moyenne. Et bien sûr, plus l'incertitude autour des intentions de vote est importante et plus l'intervalle de confiance est large. Il est important de le tenir compte et de ne pas l'oublier quand on donne les chiffres. Et bien, bien, ce sera désormais la même chose pour les données des essais cliniques. On ne dira plus, le médicament machin baisse la pression artérielle de 20% avec un petit P de 4%, mais la baisse de tension artérielle apportée par le médicament machin est de 20% avec un intervalle de confiance de 5 à 35%.
Ah oui.
Et je trouve que c'est quand même plus parlant.
Merci beaucoup Dominique. Chronique à réécouter sur le site de la Tête au Carré. On se retrouve jeudi prochain.
À jeudi prochain.
Bonne semaine. Bonjour Fabrice Ouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles dans quelques minutes.
Allez, aujourd'hui tout le monde tout nu.
Et tout bronzé.
Pas forcément. Mmh. On sort les guitares électriques et on va à Woodstock.
L'histoire
de Woodstock aujourd'hui, 1969, et on va se mettre en mode production maison, puisque je recevrai Mishka Assayas, journaliste spécialiste rock, producteur de l'émission Very Good Trip sur France Inter.
Eh bien, on en lustre tout et on se retrouve dans votre studio dans un instant. Merci.